entreprise.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Fort et Relu à l'Elysée sur Radio 103, 102.3 FM et 95.9 MHz sur Radio Plaisance en Périgord noir.
Bonjour à toutes et à tous, émission spéciale de Fort et Relu à l'Elysée, puisque là ce n'est pas Fort et Relu à l'Elysée, mais Forte et Recluse à la Tour de Gassy, en immersion en plus. Alors la Tour de Gassy, c'est un centre de médecine physique et de réadaptation. En fait, donc il y a plusieurs pathologies, il y a plusieurs handicaps, et donc il y a plusieurs secteurs aussi. C'est pour ça que l'on va écouter une chanson de Passy qui est « Le maton me guette », puisque après il avait secteur A, et que le rayon neurologie à la Tour de Gassy, c'est le secteur A. Donc je tenais à remercier Francis pour sa participation. Je tenais à remercier Cego pour le prêt, évidemment, du MD, Fab aussi, Darun, mais ça c'est pour autre chose aussi. Et donc voilà, sinon cette émission n'aurait pas pu être réalisée. Et donc voilà, cette émission est en deux parties. Vous allez entendre plusieurs morceaux de musique et aussi un extrait du film Maral Dentro, qui est vraiment formidable, ainsi qu'un court-métrage fait pour le concours de C'est pas du cinéma. Il faut aller sur le site parce que c'est très très intéressant ce qu'ils ont fait. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne écoute et puis à dans 15 jours pour la seconde partie donc de Fort et Reclus à la Tour de Gassy avec Francis.
Bon, je me présente, je m'appelle Francis et je vais essayer de vous dire deux mots pour vous situer le cheminement par lequel je suis passé dernièrement. Je pense que dans la mise en place actuelle, le système hospitalier défavorise la place que devrait avoir le handicapé. Les valides sont dans des salles d'attente avec des télés. Bon, ils peuvent attendre aussi un tout petit peu à attendre que le rendez-vous ne tombe pas pile à l'heure. Alors que les handicapés sont sur des brancards, dans des boxes, plus loin. Et en général, les handicapés passent quand tous les valides sont passés. Alors ça, je pense que c'est tout à fait illogique, parce que dans la société, en règle générale, les gens valides font un peu attention aux handicapés, alors que dans le milieu hospitalier, on a l'impression que les handicapés sont des seconds plans. Je pense qu'il y a un gros problème à ce niveau. Bon, là, je suis à la Tour de Gassy depuis une dizaine de mois maintenant, et la Tour de Gassy, bon, c'est un centre très important, qui est, je pense, pas mal coté au niveau français, voire même peut-être au niveau européen. Il y a des installations super, les locaux correspondent aussi, l'espace pour les handicapés, ouais, bien adapté, que ce soit intérieur, extérieur. Bon, il y a peut-être toujours quelques petites retouches qui peuvent être effectuées, mais bon, c'est quand même pas mal. Mais la Tour de Gassy, bon, je pense qu'au niveau médical, par rapport à tous ces gens handicapés qui vivent là à longueur de temps, il y a une grosse lacune au niveau médical. Au niveau travail, que ce soit balnéo, ergo ou kiné, il y a du matériel pour travailler, il y a des gens compétents et les patients n'utilisent pas forcément au mieux les possibilités qui leur sont offertes. Bon, en kiné, par exemple, celui qui veut aller travailler va travailler, on le fait travailler et il peut bénéficier de progrès, bien sûr. Alors que les gens qui ne sont pas motivés pour venir travailler, personne ne se soucie vraiment de les faire travailler, quoi. Et moi, Moi, je pensais à une époque que les kinés suivaient un peu leurs patients et s'inquiétaient de leur absence, alors que c'est pas du tout le cas, quoi. Si un patient reste dans sa chambre ou s'il s'en va jouer à la belote ou s'il est absent, le kiné en général ne s'en soucie pas. Non. Le kiné prend les patients qui viennent, il s'occupe des patients qui viennent, mais après, bon, bah, il tombe dans sa petite routine, et s'il manque un patient, s'il manque deux patients, bon, il va se rasseoir à son bureau, il va discuter avec ses collègues, et
prendre un café,
ou manger des petits gâteaux, et bon, et puis le kiné se déplace dans sa façon de marcher, pas comme une personne très bileuse. Kiné, en règle générale, a une sorte de démarche un peu louvetée, là, un peu chaloupée, qui détermine bien le personnage. Et il met en route quelqu'un à travailler. Si une autre personne arrive, il remet en route à travailler. Qu'il reste longtemps avec lui pour le regarder travailler, ça beaucoup moins souvent, pour
ça,
ne pas
très,
dire
très
jamais, quasiment. Et s'il y a un petit blanc, bah, il va se rasseoir à son bureau ou il va chercher un collègue pour discuter, quoi. Ça, en général, c'est le processus que l'on voit à longueur de journée dans les kinés. Bon, les ergos sont un peu plus dynamiques. Les ergos sont davantage à leur travail, j'ai l'impression.
C'est marrant parce qu'eux, ils se déplacent sur les tabourets roulants.
C'est vrai, les ergos se déplacent sur les tabourets roulants autour des tables. Je crois que le gros problème en ergo, selon les appels, c'est le téléphone.
Oui.
Parce que ça, le téléphone,
c'est une horreur.
Je pense que ça mange le quart d'une journée pour chaque ergo.
Oui.
Ça, c'est le gros problème. Bon, et puis les ergos sont quand même appelés dans les chambres le matin comme pour apprendre aux gens à se réhabiller seuls. Ouais, donc l'ergo vit avec pas mal de déplacements, l'ergo va faire les transferts extérieurs dans les véhicules. Et il y a beaucoup plus de travail, à mon avis, à faire en ergo, et les ergos paraissent plus motivés que les kinés, quoi. Voilà ce que j'ai pu en sortir. Bon, après, pour les gens qui s'occupent de nous dans les étages, bon, je pense que les infirmières sont compétentes, les aides-soignantes, je pense, compétentes. Bon, il y en a toujours une ou deux en dessous de la norme, mais ça, je pense pas qu'on puisse l'éviter.
Oui.
Je pense que ce qui est dommage, quand on est plus ou moins habitué avec certaines aides-soignantes ou infirmières, il y a quand même une rotation, comme pour qu'elles ne s'habituent pas avec les patients. Et c'est dommage parce que certaines infirmières qui font très bien les pansements, ne peuvent pas suivre les patients et voir l'évolution, et on tombe toujours sur une infirmière un peu moins compétente entre deux, et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de suivi de ce côté. Il y a quelque chose que moi je déplore aussi depuis mon arrivée ici, c'est que tout tourne derrière un protocole, et on passe par le protocole, et on ne peut pas, pour le personnel, faire un petit pas de côté, faire preuve de professionnalisme. Non, il y a tout un protocole qui bloque le système. D'ailleurs, moi, au début, quand je suis arrivé ici, je vais vous dire quelque chose qui va pas vous paraître sérieux, mais le premier étage, c'est-à-dire là où sont les chambres, je prenais ça comme une sorte de secte. Tellement ce protocole étouffait tout ce qui aurait pu se faire, quoi. Mais ça, c'est un avis personnel. Bon, quand je le disais, je faisais sourire ceux à qui je le disais, quoi.
Ah non, moi, ça me fait pas sourire. Moi, je pense que c'est tout à fait vrai, quoi.
Moi, j'ai nettement eu cette impression.
Les menottes, les notes, la machine à taper. Ton nom, prénom, naissance, nationalité. Poche vidée, ensuite lacée, ceinture enlevée. Feu d'artifice et l'armistice, le pays est en fête. Pour moi la fête en garde à vue dans les cages de la police. 9h, 11h, parle, ton nom est sur le tas. J'ai fait 6 pas dans l'enfer des galères. La poisse, les empreintes, les plaintes et ce tribunal. Ma famille et mes proches en soutien principal. Les flics éclatent, roulent à fond, bon mon avocat est clair. Mais le juge persévère, il est 20h, mon matricule
cellule 49-203. J'entre en cellule des 128, la porte claque, mon cœur bat. Mon cousin 49-204 me parle de date, me mate, enchaîne soleil, business et rate. Le trouble est dans ma tête
et le maton
en mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreau, porte bloquée, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés, les jours se répètent.
Et le maton
ton corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreau, porte bloquée, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête
et le maton
te guette. Première nuit, matelas pourri, lit superposé. Carreau cassé, les rats passent sous mes pieds. Au réveil, j'ai comme la corde au cou dans cette cage qui fouette. Dans la cour, les corbeaux, les mouettes font la fête tout l'heure. Résonne encore derrière les portes du pénitencier. Dans ma tête, gamelle, parloir, courrier tourné. Visite médicale, anormale et mon état zéro. Au moral, plus la matinale. Goal, mes dents me font mal. J'ai des boutons dans le dos, passif et les 100 pas parmi les prisonniers. 3 mètres de mur, 2 de grillage et un de barbelé. 8 douches dans le bois, en sueur sans bouger. Soirée télé, coucher, soleil d'été levé. Mon neveu que je n'ai pas vu naître au parloir me rend ouf. Dans ces murs, l'odeur des chiottes, du sale, de la bouffe. J'étouffe dans ce goulag, la cellule, le stalag. Les jours se répètent
et le maton
mon corps guette. Est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreau, porte bloquée, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent
et le maton
mon corps guette. Est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreau, porte bloquée, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête
et le maton
te guette. Il suffit d'être au mauvais moment, mauvais endroit. Et vlant dans tes dents, tu choisis pas, prends ça, trahis ma vie. Mon nom s'allie comme si j'étais un assassin. C'est comme perdre une partie de paupières contre Satan. Dans cette merde en chien, traité en moins que rien. Certains sortent puis reviennent de nouveau sous écrou. Dans ma cellule incamée, prends un cachet à chaque gamelle. Nouvelle, un suicidé évacué, menotté, c'est le dawa. Enfin pactage, libéra pour 49-203.
Ah, pas si t'es sorti.
Ça faisait des mois, j'ai remis lunettes, ma casquette et mes blanches baskets. J'ai rouvert et j'ai encore moins le goût pour la fête. Autour toujours nos embrouilles de rebeu et négro. Et le B de bleu sonne avec le B de barreau. Je dois signer, dire présent une fois par semaine que personne m'engraine. Je dois pas me faire serrer avant mon jugement. Chez nous le son ne dit jamais, ça y est c'est fini. Ça m'arrivera pas, pas moi, moi je pourrais pas béton. Donc à tous les lascars qui ont tourné dans le noir, à toutes les familles qui attendaient au parloir, à tous les concernés par ce genre d'histoire, bonne chance si tu passes devant la barre. Judas fut le mauvais œil pour l'homme de Nazareth. Toi, n'oublie jamais que le maton nous guette. Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreau, porte bloquée, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent
et le maton
mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreau, porte bloquée, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête
et le maton te
guette. J'ai pas ta voix, encore moins la vision. Mais la mine de ton crayon m'offre une brève évasion. Mon corps est détenu, mais mon âme et mon esprit peuvent rejoindre l'horizon dans une brève évasion.
Et le maton
mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Porte bloquée, courrier, brève évasion. Donc à tous ceux qui ont galéré, qui galèrent en prison, à tous ceux qui te soutiennent pour pas que tu pètes les plombs. Tout le temps, tant de hargne, tout le temps, tant de larmes. Une pensée aux disparus, une pensée aux enfermés. Bois d'Arcy, Onifrène, Fleury, Santé, Nanterre, les Baumettes et les autres zonzons. Parloir, courrier, tourné, c'est la mer, tu le sais. Dans tous les quartiers, quand le maton te guette.
Oui. Quand le maton te guette.
Et pour en venir au fonctionnement, donc fonctionnement à l'étage, puisque c'est le fonctionnement le plus important quoi, dans la tour de Gassy, de là où partent tous les soins, toutes les consignes et autres, je pense, comme je le disais tout à l'heure, qu'au niveau médical, il y a quand même une grosse lacune. J'ai l'impression, dans le service où je suis, que le médecin à quelques bases médicales, mais beaucoup de généralistes de campagne feraient un malheur si il devait être à sa place et gérer le service, quoi. Ouais. Pour moi, le médecin ressemble plus à un hôtelier qu'à un médecin, quoi, sur ce que j'ai pu ressentir à l'étage. Ouais. Un donneur d'ordre, voilà, avec quelques notions médicales, mais pas suffisamment pointu pour le genre de patient qu'il a supervisé. Quoi. Ouais.
Ils sont trop au-dessus, les patients, par rapport à lui, en fait.
Je sais. Je sais pas, il y a un truc qui m'échappe.
Il est dépassé par les patients, quoi. Enfin par les pathologies, pas par les patients.
Ouais, c'est dommage.
C'est dommage pour les patients.
C'est dommage pour les patients, ouais. Ouais, ouais. Bon, moi je vois un cas personnel, bon. J'avais un corps au pied. Bon, ils ont voulu me faire disparaître le corps au pied. Et en voulant me faire disparaître le corps au pied, c'est une affaire qui a duré 6 mois, qui m'ont mis d'infection à l'intérieur avec leurs différents pansements. Je me suis retrouvé sous perfusion. J'ai loupé des quantités d'heures de kiné. Et maintenant que c'est résorbé, ça a mis 6 mois à disparaître. À la place, j'ai quoi ? Un nouveau corps au pied. Bon, et ça pour moi, ça définit un peu le système médical de la Tour de Gassy, quoi.
Ouais.
L'année dernière, au 15 mai, j'ai fait une phlébite. Je suis allé aux urgences à Pellegrin, c'est là où elle a été décelée. Et le médecin qui m'a passé le Doppler m'a dit ce qui est le plus important, c'est d'essayer de rechercher la cause de la phlébite. Bon, ce que j'ai dit au médecin de la Tour de Gassy, quand je l'ai vu le lendemain, je lui ai dit, il faut chercher la cause de la phlébite. Et lui m'a répondu, mais la cause de la phlébite, tout le monde la connaît, c'est votre immobilité. Et quand votre phlébite sera terminée, ce que vous risquez le plus, c'est d'avoir une autre phlébite. Bon.
Bravo, bien joué.
J'ai pris acte. Et à l'époque, j'allais en chimio à Olévêque, toutes les 3 semaines. Et quand je suis arrivé à Olévêque, je leur ai dit la même chose. Je leur ai dit que on m'avait dit qu'il fallait rechercher la cause de la phlébite. Que j'en avais parlé au médecin de la Tour de Gassy et qu'il m'avait dit ce que je viens de vous dire, que tout le monde la connaissait. Et eux, à Olévêque, quand même, m'ont dit on va se pencher sur le sujet.
Ah, quand même.
Et ils sont revenus 1 heure après en me disant on vous a fait de l'EPO, on vous a doublé la dose d'EPO pour garder l'équilibre de vos globules lors de la chimio, et l'EPO est facteur de phlébite. Donc on supprime l'EPO. Bon. Le soir, je suis revenu à la Tour de Gassy. On me faisait une piqûre d'EPO toutes les semaines. Le jeudi, quand ils sont venus avec la piqûre d'EPO, j'ai dit non. Olévêque a dit que l'on arrêtait l'EPO. Ils sont retournés voir dans les notes. Et à Olévêque, on avait oublié de marquer, de spécifier par écrit que l'EPO devait être suspendu. Et ils sont revenus avec la seringue d'EPO. Et j'étais un peu sonné à l'époque, ils m'ont fait l'EPO. 8 jours passent, et 8 jours après, ils reviennent avec une seringue d'EPO. Et je leur ai dit, je vous ai bien expliqué la semaine dernière, ah oui, mais...
Ça a changé.
Non. Comme nous n'avons rien d'officiel de Olévêque, dans le doute, on continue. Et je leur ai dit, aujourd'hui, vous continuerez pas parce que moi, je refuse de me faire piquer. Et maintenant, vous vous mettez en face de votre boulot. Il y en a un qui attrape le téléphone et qui téléphone à Olévêque. Ou sans ça, c'est moi qui le fais. Et là, on a fait téléphoner l'interne à Olévêque. Et à Olévêque, on a dit à l'interne, il ne faut plus faire de PO. Mais personne n'est venu me dire à l'époque qu'il s'était renseigné auprès de l'évêque et que l'EPO était suspendu, quoi. C'est moi qui leur ai demandé s'ils avaient bien eu l'information et qui avait déjà raison la semaine précédente.
Et qu'est-ce qu'ils ont dit alors ?
Ils m'ont dit, dans le doute, on est obligé de continuer. Et alors moi, je leur ai dit, j'aurais déjà dû interdire...
Quand ils ont su qu'il fallait l'arrêter.
Ouais. Quand ils ont su qu'il fallait l'arrêter,
ouais.
Ils ont dit c'est dommage, c'est un oubli de la part de l'évêque de ne pas l'avoir marqué, quoi.
Ah.
Mais maintenant, s'ils confirment qu'il faut l'arrêter, on l'arrête puisque c'est eux qui décident. Et donc, a priori.
Ils ne sont pas excusés auprès de vous.
Ah non, pas du tout.
C'est ça que je voulais dire
là. Ah non, pas du tout. Rien. Ah non. Le médecin, aussi fier que la fois précédente, il ne m'a jamais reparlé d'EPO Ah non, non, non.
C'est un travail d'être malade.
C'est un travail. C'est une mauvaise situation.
Je sais pas si je rêve que je suis debout ou ben je suis debout dans un rêve. Mais en tout cas, ça va bien. Hey, les hommes j'aime parlent de toi.
Salut.
Pis moi de mes médicaments. Quand mon corps s'habitue que la dose suffit plus, je m'en vais voir docteur malin. Hey, à quatre pattes comme un chien. Lui au moins, il fait du bien. Hier soir, j'ai eu un rêve. Est-ce que c'était le soir ou le matin? Est-ce que c'était le soir ou le matin? Est-ce que toi, ça va bien? Ou juste un peu, pas beaucoup? Ou juste un peu, pas beaucoup? Viens manger mes médicaments. Viens manger mes médicaments. La, la, la. En tout cas, lui est fin. Hein? Il m'est fait tout essayer. Même si j'ai pas de papier. Des fois, j'en donne aux enfants pour qu'ils soient contents. On se promène maintenant la main. Hein? De chemin en chemin. Vers la société de demain. Hier soir, j'ai eu un rêve. Est-ce que c'était le soir ou le matin? Est-ce que c'était le soir ou le matin? Est-ce que toi, ça va bien? Ou juste un peu, pas beaucoup? Ou juste un peu, pas beaucoup? Viens manger mes médicaments. La 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 la. Viens manger mes médicaments. La 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 la. Ben, je suis debout dans un rêve, mais en tout cas, ça va bien. Hey.
Forêt reclue à l'Élysée, dans le monde entier, sur internet. www.radiopéridle103.com. Et sur l'audioblog, où vous pouvez écouter, télécharger et diffuser les émissions. audioblog.arteradio.com/forêt reclue à l'Élysée. Tout attaché et sans accent.
Mais pourquoi on est obligé de corriger justement les médecins ou de leur dire que non, il faut arrêter ça et qu'ils ne vont pas.
Je pense que chacun de nous a des lacunes, des problèmes ou diverses lacunes, quoi. Bon, l'essentiel c'est de le reconnaître. De s'en excuser, c'est encore mieux. Mais minimum de le reconnaître. Parce que quelque chose qui est reconnu permet à la personne qui a fait l'erreur de progresser. Alors que la médecine se sent un peu au-dessus de tout, le patient a toujours tort, le médecin a toujours raison. Donc c'est très dommage, parce que c'est pas une médecine évolutive, parce que la médecine ne peut évoluer que si elle est ouverte quelque part. Et là, comme elle est bouclée, bah, c'est plutôt une médecine restrictive. Bon, ça c'est un exemple. J'en connais d'autres, hein, même sur d'autres patients. Je vois une patiente qui était dans mon couloir, qui se plaignait d'avoir du mal à respirer, et personne n'a voulu entreprendre de faire d'examen sur elle. Le week-end, elle est retournée chez elle, elle a été voir son médecin traitant, et le médecin traitant a décelé une bronchite qui était en place depuis 8 jours. Et quand elle est revenue avec les médicaments prescrits par son médecin traitant, on lui a fait passer une radio, et il y avait tout le poumon gauche qui était pris. Alors qu'elle s'en était plaint ici la semaine précédente.
Moi là, on m'a mis sous un médicament qui est le Contramal. Et en fait, j'ai eu la chimiothérapie à appel la semaine juste avant mon entrée ici. Moi, j'ai parlé de mes douleurs et tout ça, on m'a donné ça comme médicament. Et donc, je les ai pris la première semaine, la deuxième semaine. Et puis, bah, la première semaine, j'ai eu des vomissements et tout. Donc, ils m'ont dit, vous avez pas bu, vous avez pas pris de drogue. Je dis, bah non. Peut-être que j'ai attrapé froid parce que j'étais dehors toute l'après-midi. Et puis, en fait, bah, là, j'ai toujours les médicaments et j'étais pas bien en kiné. J'avais envie de vomir aussi et tout, et c'était pas le syndrome cérébelleux, c'était le... Et donc en fait, non, c'est ça, là, j'ai vu une infirmière d'ici qui est Christine, qui est vraiment fantastique, je dis son nom parce que vraiment elle est bien, et qui m'a dit, ouais, on arrête. Elle m'a dit, là j'ai vu avec justement la hiérarchie, n'est-ce pas? Et donc là, elle vient de me le dire il y a 5 minutes, le temps que le contramal passe dans votre corps, et après on prendra autre chose. Mais c'est pour ça que je disais, est-ce que c'est un travail, quoi? Enfin, est-ce que c'est un combat, forcément? Pas forcément contre la maladie ou contre un truc, mais contre, ben, justement, les blouses blanches, comme moi j'appelle tout ce qui est milieu médical.
Non, moi je reviens toujours sur la même pensée. Dès l'instant où on est malade, il faut partir du principe que l'on se retrouve seul. Quand je dis seul, ça veut dire que nous ne pouvons pas avoir le soutien médical que nous sommes en droit d'espérer. Donc, tant que nous en avons la possibilité, nous sommes obligés de les surveiller. Mais je dirais de les surveiller comme le lait sur le feu, quand même. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment un travail.
Ça demande de l'énergie, quand même.
Ça demande de l'énergie. Mais pour moi, c'est plus un manque de confiance. Moi, ils m'ont prouvé plein de fois que je ne pouvais pas leur faire une confiance totale. Tout à l'heure, le nom du contramal était évoqué. Je vais revenir 30 secondes dessus. Moi, j'en prenais aussi à une époque, contre la douleur. Et j'avais remarqué que suite à la prise de ce médicament, j'avais une poussée de température. Mais qui s'estompait après. Et c'était une habitude. Tous les soirs, j'avais une poussée de température. Bon, et puis on me foutait la paix, on ne me prenait pas la température, pas la tension, rien.
Non plus, hein.
Et puis un jour, tout bêtement, je me sentais moins bien. L'infirmière venait de prendre la tension à mon voisin, et je lui ai demandé de me la prendre. Elle me l'a prise, elle était bien. Et puis elle me dit, oh, ben, du même coup, je vais vous prendre la température. Oh, je dis, c'est pas la peine, je sais que j'en ai. Et elle me prend la température, et effectivement, j'en avais. Et elle me dit, pourquoi vous saviez que vous en aviez et que vous ne m'aviez rien demandé? Je dis, parce que j'en ai tous les soirs, c'est suite à la prise du comprimé de Contramal, j'ai une poussée de température, et puis après, ça redescend, et puis tout rentre dans l'ordre. Elle est allée voir l'interne. L'interne qui avait un bagage très léger, je suppose, et qui a dit non, normalement le contramal ne doit pas faire une poussée de température, et ils m'ont mis sous perfusion, en pensant que j'avais une infection quelconque, et pour ne pas laisser se déborder par l'infection, ils m'ont branché des perfs, alors que j'ai insisté pour qu'ils ne me les branchent pas, et je leur ai dit, vous pouvez revenir à telle heure, me prendre la température, elle est bonne.
Francis, pourquoi est-ce que tu n'as pas le droit de refuser ça? Tu as refusé et donc quand même mis sous perfusion.
J'avais refusé pour l'EPO, mais la perfuse, j'étais contre, mais je ne me suis pas opposé.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Ah, mais ce jour-là, tous les infirmières du couloir étaient dans ma chambre. Quand ils m'ont piqué pour me mettre la perf, ils étaient bien 6 autour de moi, hein, tellement la poussée de température les avait étonnés. Et moi, je leur ai dit, c'est pareil tous les soirs. Hein. Et vous allez revenir à partir de telle heure, quand le service de nuit va me prendre la température, je n'aurai plus de température et j'en aurai que demain soir. Personne n'a rien voulu écouter. Bon, et puis après, la première fois où on m'a repris la température, 3 heures après, j'avais pas de température et j'ai jamais plus eu de température jusqu'au lendemain. Mais ils m'ont débranché les perfs que le lendemain midi quand même. J'ai pas pu aller en kiné le matin. Et il a fallu que je les envoie revérifier les effets secondaires du médicament qui confirmait ce que j'avais avancé la veille au soir. Mais comme personne ne les connaissait la veille au soir, personne n'a voulu écouter ce que je disais.
Et personne n'a voulu vérifier dans le Vidal, dans dans la notice.
Le patient a toujours tort.
Pourquoi il a toujours tort?
Je ne sais pas, mais moi ça fait 10 mois que je vis à la Tour de Gassy et le patient a toujours tort. Voilà, ça c'est une règle de base. Le médecin a la science infuse et le patient a toujours tort.
Ça, le médecin qui avait la science infuse, je savais. Que le patient n'était jamais écouté, bah oui, ça revient pareil. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai 10 ans de maladie derrière et ouais, on en arrive là. Moi, j'étais stupide. En fait, moi, quand j'étais petite, on me disait que les médecins, si je suis malade, ils vont me guérir, quoi. Bon, là, j'ai une maladie qui ne se guérit pas. Donc, bon, ils ne peuvent pas guérir, mais bon, ils peuvent peut-être la stabiliser. Bon, ils ont du mal. Je dis d'accord, bon, ça va, d'accord, j'ai compris. Je dis, mais pourquoi le médecin, quand je pose des questions, il ne me répond pas? Déjà, lui, il a fait des études, mais ça se passe dans nos corps. Mais lui, il a sur le papier. Mais quand lui, on dit ce qu'on est en train de ressentir, eh ben, on a tort, c'est pas vrai.
En règle générale, ouais. Ouais.
C'est pas tant ce qui est arrivé. C'est ce qui peut m'arriver. Parce que, un jour, ce sont les jambes, et puis un autre. Tu peux devenir aveugle. Provisoirement ou non. Jusqu'ici, j'ai eu de la chance. Mais je sais qu'il y aura une nouvelle attaque. Et une autre. Et encore une autre, encore une autre. Et personne pour te dire quand ça se produira. Ou comment ce sera. Il n'y a personne pour te dire ce qui restera de toi si toutefois il reste quelque chose.
Ton mari, il est plutôt optimiste, lui.
À quoi ça sert d'être optimiste? Il n'y a aucun traitement pour cette maladie, aucun. À quoi bon? Essayer de me lever chaque matin, travailler, me faire des illusions, si je sais que tôt ou tard, j'aurai une nouvelle crise et que je retomberai à nouveau, que je serai à nouveau par terre comme une merde. C'est absurde.
Vous écoutez Fort et Relu à l'Elysée sur Radio 103, 102.3 FM et 95.9 MHz sur Radio Plaisance en Périgord noir.
Et comment faire?
Il faut trouver un autre moyen de passage. Bon, quand on est à la tour de Gassy, on ne peut pas changer de médecin, puisque c'est un médecin imposé par couloir. Mais celui qui se trouve à l'extérieur de la tour de Gassy, bon, si le courant passe pas avec un médecin, il faut changer de médecin. Ça, c'est une obligation. Il y en a suffisamment sur le marché.
Ça, c'est un bon conseil.
Et ils sont, je dirais, ils sont loin d'être tous bons. Il y en a des bons.
Ah oui, il y en a des excellents. Et puis, c'est un peu la loterie, hein, quand même, la médecine, un peu. Hein.
Ouais. Quelqu'un qui peut se remettre en question dans la médecine... En général, c'est quelqu'un qui est déjà assez fort et qui a encore d'autres possibilités sous la pédale, alors que quelqu'un qui ne peut pas se remettre en question ou qui ne veut pas se remettre en question, c'est qu'il est à peu près toute voile dehors. Donc, il n'y a pas grand-chose comme espoir derrière. Je vous parle d'un médecin tout à fait extérieur à la tour de Gassy. Là, je remonte plus de 20 ans en arrière. À l'époque, j'étais malade, on faisait des recherches et on n'arrivait pas à situer la maladie. Bon, il m'est arrivé de consulter jusqu'à 3 médecins par jour parce que je voulais jamais m'arrêter sur le précédent. Et un soir, je vois un médecin, pas comme les autres. Il sort de derrière son bureau, il s'assoit sur un tabouret à côté de moi et puis il me dit... Expliquez-moi tout. Il a tout expliqué. Il a regardé tous mes bilans sanguins, tout ce que j'avais passé comme examen. Il m'a gardé 3/4 d'heure. Alors que les autres que j'ai vus dans la journée, la veille ou la semaine précédente, me gardaient en général 1/4 d'heure, maxi. Et au bout de ces 3/4 d'heure, il m'a dit... Bah écoutez, continuez sur la lancée où vous êtes, parce que là j'ai l'impression qu'après 6 mois de recherche, ils ont trouvé un traitement, donc ce serait dommage de ne pas l'essayer. Faites ce traitement-là, et quand vous aurez fait le traitement, ou pendant que vous faites le traitement, si vous avez besoin de me consulter, je reste à votre disposition. Mais pour l'instant, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Et quand je lui ai dit au revoir, je lui ai dit combien je vous dois. Et il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, moi je peux rien pour vous. Vous me devez rien. Et en sortant, j'ai dit à ma femme, ça, celui-là, je ne l'avais encore jamais rencontré. Parce que d'habitude, qu'il... pense pouvoir quelque chose pour moi ou qu'ils soient persuadés de ne rien pouvoir pour moi, ils sont quand même tous passés à la caisse. Parce que le but de la manœuvre, c'est ça quand même. Hein. C'est être payé pour le quart d'heure passé. J'ai dit, celui-là, il a passé 3 fois plus de temps avec moi.
Et en plus...
Et il m'a dit que je lui devais rien parce que lui, il pouvait rien pour moi.
C'est très fort ce qu'il vous a dit là, c'est clair.
Et j'ai dit à ma femme, si je m'en sors... Au moins, par politesse, il faudrait que je revienne me voir un coup pour lui payer une consultation, parce que ça méritera, quoi. Bon, et puis j'ai fait le cheminement qui était prévu. Pendant... La plaisanterie a duré 2 ans. Ouais. Et puis au bout de 2 ans, j'étais pas mal. Ouais, j'étais redevenu à peu près opérationnel. Et il me manquait un petit truc pour redémarrer. Il me manquait un petit truc. Et puis je cherchais, je trouvais pas le truc, je trouvais pas le truc. Et j'ai dit, il faut que j'aille consulter ce gars que j'ai laissé sur le côté et qui était tout compte fait le seul qui devait voir les choses en face. Quand je suis arrivé dans son cabinet, 2 ans après, oh, il m'a reconnu tout de suite. Et puis il m'a dit, je suis bien content de vous voir. Parce que quand vous êtes passé me voir, vous étiez vraiment très mal pris. Mais aujourd'hui, comme vous venez me revoir, je pense que l'on va pouvoir travailler sur un terrain solide. Et là, je vais vous prendre en main pour vous donner un traitement et vous remettre sur pied. Effectivement, il m'a appliqué un traitement et il m'a remis sur pied. Et je l'ai gardé comme médecin. Mais en plus de médecin, on est même devenu amis dans la vie courante.
Alors moi, si un jour je deviens ami avec un médecin, alors là, je te paye des prunes. Parce que moi, j'ai la haine envers les blouses blanches. Enfin, pas une haine, mais c'est cette incompréhension qu'il y a là. Ouais. Par exemple, ici, moi, mon médecin, c'est le docteur Fauchet. Et juste avant de venir là, j'étais donc en train de faire la chimio. Et j'avais eu une infection urinaire carabinée. Donc, évidemment. Incontinence urinaire et tout. Je vois le docteur Fauchet pour faire le bilan urodynamique. Il me dit, madame, vous avez fait des infections urinaires dernièrement? Alors je dis, bah oui, la semaine dernière, là, quand j'étais sous chimio et tout. Ah bon, et comment ça s'est passé? Je dis, bah là, les médecins, ils m'ont dit que c'était une infection urinaire carabinée. Il me dit, non. Je vous demande ce que vous pensez. Moi, je m'en fiche des médecins. Je me suis arrêtée, je l'ai regardée, je lui ai dit, vous pourriez me la refaire, que je l'enregistre, pas pour passer à la radio, mais pour moi, que je me la remette en tête, parce que c'est... Alors il me dit, mais pourquoi vous me dites ça, tout est donné? Je lui dis, en 10 ans de suivi médical, c'est la première fois qu'un médecin me dit, j'en ai rien à foutre de ce que disent les autres, je vous écoute de vous.
Moi, j'ai pas cette chance-là, si je puis dire, ici, à la Tour de Gassy, parce que...
Enfin bon, là, c'est anecdotique.
Ouais, mais ça mérite d'être souligné quand même, oui. Dès l'instant où ça s'est produit. Non, moi, je pense que mon médecin aurait pu faire un bon homme politique, parce que chaque fois
ça, c'est une insulte.
Que j'ai une question à lui poser, je vois dans ses yeux qu'il a toujours la réponse prête avant que j'ai fini de lui poser la question. Et ça, c'est quelque chose qui m'indispose énormément.
Ça, je l'ai ressenti aussi.
Ouais.
Avec un neurologue de Paris qui est passé professeur, maintenant. Mais oui.
Pour moi, un médecin...
Savoir la réponse dans les yeux avant qu'on ait fini la question, c'est terrible.
Un médecin doit écouter la question, il doit réfléchir à la question, et il doit donner une réponse qui tient la route au patient pour que l'on puisse lui faire un minimum de confiance, à mon avis.
Ça infantilise quand on est malade.
Je pense, moi, que c'est quelque chose qui devrait faire partie de leur... comment dire... de leur éducation de médecin, quoi. Voilà. Ne serait-ce que par rapport à la réaction des patients qui passent entre leurs mains. Ouais. Parce que c'est pas possible, même un surhomme, pour différentes maladies, pour différentes analyses, pour différents patients, il ne peut pas connaître la réponse avant qu'on ait fini de poser la question. Non. Qu'un homme politique le puisse, ça, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait, c'est leur métier.
Les journalistes en plus.
Non, mais c'est tout à fait différent. Quoi.
Ça n'a rien à voir avec nous. Hein.
Non.
Ça, c'est.
Enfin, moi, c'est l'impression que je ressens, quoi. De m'adresser à un homme politique, pas à un médecin. Voilà.
D'où venaient ces douleurs, Clarisse? D'où venaient ces douleurs?
J'ai couru plus de 3 km et je me suis effondrée.
Troubles de l'équilibre, faiblesse musculaire, perte de la sensibilité. Vous arrive-t-il de vous réveiller en pleine nuit et de penser que vous courez normalement?
Oui.
Et qu'en courant, vous pourrez sauver toutes ces personnes atteintes de la sclérose en plaques. pris d'une maladie du système nerveux central. Aidez-nous à la combattre.
Move to see you.